D'après ce que nous voyons déjà sur le terrain et qui sont effectivement renforcés par les données qui sont disponibles, il y a quand même une forte baisse de la pratique des mutilations génitales féminines dans beaucoup de pays. Il y a quelques pays encore où le mouvement a commencé, mais n'est pas très visible sur le plan des données. Par rapport à la lutte, je pense qu'on a atteint vraiment un niveau quand même supérieur aujourd'hui, avec un très grand engagement des leaders politiques et des gouvernements, un grand engagement de l'Union africaine qui a lancé sa campagne l'année dernière, en février dernier, sur les mutilations génitales féminines. Une campagne qui s'appelle Salima, qui veut vraiment renforcer, booster le niveau de redevabilité des États par rapport à cette pratique. Au niveau de chaque pays, nous avons un fort leadership et récemment, lors du sommet de Nairobi, de la revue de la CIPD à 25 ans, nous avons vu le président du Kenya qui a dit que cette pratique va s'arrêter donc quand il quittera le pouvoir, c'est-à-dire dans 2 ans. Donc il y a quand même une forte volonté politique. La société civile est vraiment mobilisée fortement. Elle a toujours été mobilisée, mais je crois plus que jamais, elle a beaucoup plus d'espace aujourd'hui pour agir. Les jeunes sont venus en renfort très fortement et prennent un rôle non seulement d'agent de changement, mais aussi de surveillance. Ce qui est important au niveau des communautés, au niveau des politiques et autres, et ils demandent quand même des comptes, ils demandent à ce que les engagements qui ont été pris soient respectés. Donc je suis assez positive pour dire qu'aujourd'hui la lutte donc est assez bien engagée et qu'on pourra dans les 10 prochaines années renforcer les capacités, renforcer le plaidoyer auprès des communautés, auprès des leaders, auprès des femmes, des filles, des hommes, des garçons, pour faire de cette pratique une pratique historique et ancienne.
Une lutte qui est bien engagée, mais on a quand même vu cette semaine encore une fillette de 12 ans en Égypte qui, dans un contexte même médicalisé, a perdu la vie.
Absolument. Et je veux dire que cela nous rappelle encore que la médicalisation n'est pas une solution pour protéger les filles et que les Nations Unies ont appelé à un abandon total des mutilations génitales féminines. Nous avons même eu certaines critiques qui trouvent que c'est un peu trop radical et qu'il faut accepter que ce soit un processus lent, de passer par exemple d'un type 3 d'infibulation à un type 1 qui est vu comme étant un type mineur. Mais je voudrais rappeler qu'en Égypte, justement, c'est ce type qui est pratiqué. Comme vous le dites, cela n'empêche pas le décès des filles. Donc la médicalisation n'est pas une solution. Passer d'un type soi-disant plus grave à un type plus léger de mutilation génitale féminine n'est pas une solution. Nous demandons et nous appelons donc toute la communauté internationale à déclarer zéro tolérance à toutes les formes de mutilation génitale féminine, qu'elles soient pratiquées par un prestataire de santé ou par une exciseuse traditionnelle.
Le thème pour la Journée mondiale contre les mutilations génitales féminines cette année, c'est « Libérer le pouvoir de la jeunesse ». Pourquoi était-il important d'inclure, de souligner la voix des jeunes ?
La jeunesse, particulièrement dans les pays où les mutilations génitales féminines sont pratiquées, je ne dis pas dans tous les pays, mais dans la majorité des pays où on a cette pratique, on a une population de jeunes qui représente entre 50 et 60% de la population. Donc c'est une population qui est énorme et qui réellement a besoin d'être engagée complètement dans toutes les actions que nous pouvons mener pour lutter contre la pratique des mutilations génitales féminines. Et cela n'est pas toujours bien fait. Autant on les voit effectivement, et parce qu'ils sont dynamiques, ils ont plein d'énergie, on les voit actifs sur les réseaux sociaux, mais on ne les voit pas suffisamment quand il y a des décisions importantes, quand il y a des planifications à faire, quand il y a le développement des politiques qui sont faites, des plans d'action qui sont faits. Donc pour nous, c'était appeler un petit peu tout un chacun, y compris les jeunes eux-mêmes, à revendiquer la place qui leur est due, c'est-à-dire être au cœur et au début du processus et aussi donc à la fin du processus. Donc pour moi, ils doivent être présents autour de la table de négociation. Ils doivent suggérer donc les pistes qui doivent être utilisées pour mettre fin à cette pratique. Dans la mise en œuvre, ils doivent être fortement impliqués, que ce soit les jeunes filles, les jeunes garçons. Nous avons aujourd'hui des réseaux très actifs de jeunes au niveau donc des pays. Il faudrait les engager. Ils sont partout. C'est un avantage par rapport à un gouvernement ou autre. Eux, ils sont partout dans tous les villages, dans toutes les villes, dans les quartiers. Donc c'est une force qui est là et qui doit être mobilisée. Et également, ce qu'on a vu de plus en plus, c'est qu'ils sont aussi des surveillants. quelque part. Quand une communauté décide d'abandonner donc la pratique de l'excision ou quand les filles ne veulent pas être excisées, ce sont les jeunes, quelque part, qui sont les gardiens de cette parole, qui sont les protecteurs de leurs petites sœurs, etc. Et donc, nous pensons qu'il est important réellement de prendre conscience de leurs possibilités et de les soutenir dans cet engagement qu'ils ont pris et qu'on a vu encore très présent à Nairobi par rapport à l'élimination des pratiques néfastes comme les mutilations génitales féminines.